À la vérité, c'est Léo Ferré qui a cherché à me rencontrer. Parce qu'il travaillait à Radio Monte-Carlo et il avait reçu une bobine d'une soirée au Lapin Agile, dans laquelle je lisais un petit poème que j'avais écrit sur la scène. J'avais écrit justement là pendant que j'étais chez Dulin. Un après-midi, je ne répétais pas, j'étais descendu, je prends un petit bout de papier, puis j'ai écrit. Il a entendu ce petit poème et il a dit, j'ai envie de rencontrer l'auteur de ces quelques vers et peut-être lui demander la permission de le mettre en musique. Alors il l'a fait, il existe en disque.
Qu'est-ce que c'est comme titre?
À la scène.
Et les rapports avec Léo Ferré, les rapports de l'auteur avec le compositeur. Léo Ferré a une réputation d'avoir un caractère bien personnel. Et comment ça se passe entre toi et lui?
Bien voilà, quand je donnais un texte à Léo, je lui apportais dans une enveloppe, je lui parlais de toute autre chose. Je lui dis, tiens, j'ai peut-être quelque chose dans cette enveloppe qui peut t'intéresser. Et de toute façon, il ne l'ouvrait pas en ma présence et je m'en allais. Bon, je savais que si je n'avais pas un coup de fil dans la journée, c'est qu'il n'écrirait jamais la musique du texte que je lui avais donné.
Voilà la méthode de travail évoquée par Jean-Roger Cossimon. Vous avez fait des tas de chansons ensemble.
Pas assez, parce que il n'écrivait pas beaucoup. C'est un être extraordinaire qui était un peu en dehors du temps. Et la façon dont il a voulu mourir, c'est-à-dire on a mis ses cendres dans la mer, ça explique pas mal de choses. C'est un garçon qui n'avait jamais la voix forte, jamais. Il disait rien du tout. Et il a toute sa vie, il a fait ce qu'il a voulu. Parce que je crois que il s'ennuyait souvent dans ce qu'il faisait. Un jour, je l'avais vu avec Dulin au théâtre de Dulin, à l'atelier, dans Volpone. Formidable. Avant que je ne le connaisse. Alors je lui ai dit, mais un jour, j'ai dit, pourquoi tu. C'est un homme de théâtre extraordinaire, mais il n'a pas fait une grande carrière parce qu'il a arrêté. Je dis, pourquoi t'as arrêté? Il dit, j'avais assez. Je dis, pourquoi Dulin, il voulait. Oh, il me dit, Dulin voulait bien que je reste, mais moi, je voulais partir. Il partait, il s'en allait comme ça. C'est tellement vrai qu'un jour, il a acheté une petite. Une caravane, quoi. Et il partait comme ça, avec sa femme, pour chanter un peu partout.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient de la tête la première, qui fracassaient la crème de l'hiver. La servante avait 18 ans et moi, qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés, un amant. Parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites, de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux qui s'esclaffaient, qui parlaient haut. Et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande.
Thank you.
manger.
Pas longtemps, mais font semblant de vivre, ils emmerdent le monde. Ah, bah les ordures, n'en parlons plus, allez, Marat. Voilà. Salut, Jean-Roger.
Chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait d'être printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On ne l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Pour eux, c'est pas beaucoup comme des pour moi demain. J'en ai
amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris.
On n'a pas retrouvé la date à laquelle tu lui as confié cette chanson. Tu avais bien choisi ton interprète.
Mais je trouve que, écoutez, à distance, comme ça, dans le temps, je trouve qu'elle n'a pas été remplacée, cette femme. C'était une chanteuse extraordinaire. Je n'ai pas toujours été d'accord avec elle pour des choses qui n'ont rien à voir. Comment, oui, qui ont à voir avec la chanson, mais c'était fantastique, c'est de voir, quoi. Elle a vraiment chanté le bottin, mais quelquefois, à la fin, elle a chanté un peu le bottin, alors c'est ça qui était embêtant, quoi.
Léo, j'imagine que tu lui as confié cette chanson à l'époque où tu débutais dans les cabarets parisiens. À cette époque-là, à l'époque de tes débuts, tu as même tourné en Martinique ou je sais pas.
Oui, mais ça, la Martinique, c'est pas terrible, quoi.
C'était ta première tournée?
Ma première tournée, oui. Je partais comme ça. J'ai fait 22 représentations en 6 mois, quoi. J'ai été invité là-bas par des gens qui étaient très gentils. Et parce que, évidemment, il fallait que je mange un peu, 22 tournées, c'était 22 salles comme ça. Parce que j'avais regardé la carte Michelin à Martinique, alors je voyais des villes, le long des villes, comme on voit le long des villes en Europe, comme ça, je me disais, ben là, il y a du hors du monde, etc., fantastique, quoi, on va faire du monde. Et moi, j'arrivais en première partie, premier numéro, j'étais en smoking. Je chantais au piano en m'accompagnant. Pourquoi? Parce qu'après, j'accompagnais un autre type et puis une femme, là, qui était la femme du type qui organisait ça, qui était aussi un comédien de cet acabit, enfin de cette façon de faire dans les cabarets, quoi. Alors je restais en Martinique chez des gens qui m'ont hébergé, comme ça. Et là-bas, il y avait un truc terrible, c'est le rhum, n'est-ce pas? Le punch. Alors j'ai failli devenir alcoolique là-bas, sans le vouloir. Parce que j'avais soif, il faisait chaud, le punch avec le machin double. Parce qu'eux, ils prétendent là-bas que c'est ça, que c'est le sucre qui rend les gens malades, quoi, alcooliques, quoi. Alors qu'évidemment, c'est pas ça. Et on buvait 3, 4, 5, 6 punchs avant de manger, quoi. Parce qu'on avait soif. Puis après, l'alcool faisait son petit machin.
Un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Rassasié d'or ancien ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant. De blé nouveau avec mes coups de trique, tout seul, mieux qu'un marin, je violerai.
Non, Ferré trouve que c'est un peu vieillot sa façon de chanter, alors il est allé au piano et on va l'écouter.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe et par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique donner des tonnes d'or.
nègre du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Rassasiés d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai, les voiles en avant. Porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur, les gens s'écarteront, saluant la Madone que j'avais rattachée en poupe et par le col.
Est-ce que ça signifie que tu renies le premier disque, la première version?
Moi, renier, je sais pas ce que c'est. Moi, j'écoute pas les trucs que j'ai fait avant. Tu vois, non. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Des fois, ça m'ennuie de m'écouter ça que j'ai fait il y a longtemps, ouais. Quoi.
Que j'ai manqué et mes décorations absentes sur une table, les photos de celles qui se refusèrent sur des rayons, les in quarto des livres que je n'ai su faire. mis derrière les fagots, les grands crus de notre royaume. Les Chambertins et les Margaux, dont j'ignore jusqu'à la roue. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en piles régulières, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve, voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions. Voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses, et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Sherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en 4 secondes, décorateur sur champ d'azur, a fait de mes 4 murs la plus belle chambre du monde. La, 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 la.
Écoute, il y a une chose qu'on a écoutée avec Marc, et on n'a pas su d'où ça venait. Et tu vois, c'est assez étrange.
Brusquement, cette charmante enfance donna pour un clown qui la faisait pleurer. Et rivé à leur destin, je les suivis dans ce monde qu'on appelle les gens du voyage. Je connus la monotonie du geste nomade, le métier de partir, les roulottes confortables, et j'en vins à haïr ce monde inventé par la détresse, l'ennui, l'atroce loisir. Et toujours ce clown, cet affreux clown aux yeux peints, à la bouche déformée par l'habitude
mécanique. Ça s'appelle de sa quête corps. Gabert était entre deux pentes, là. Moi, j'avais écrit ça, je sais pas pourquoi. J'ai écrit ça en même temps, sachant que Gabert accepterait de dire le texte. Et c'est passé une fois à la radio, quoi. Voilà, il y a... Combien ça? C'était en quelle année, ça?
51, la bande.
51. Voilà. Hein? On repasse pas souvent, hein? Pourtant, Gabin, c'est pas moi, hein?
Ouais. Non, tu as trouvé la bande, toi.
Ouais, oui, c'est bien.
Rien ne se perd, ou presque. Nous, on est quasiment en 54, là.
De durs combats sont engagés en Indochine depuis 6 jours...
Destin. Deux familles à plus de 2000 kilomètres l'une de l'autre. Une en Grande-Bretagne, les Drummond. L'autre à la Grande-Terre, les Dominici. Celle de Grande-Bretagne s'ébranle, traverse la Manche, touche Paris, descend le long de la France, passe à Digne, simple étape, mais voit une affiche qui annonce une course de taureaux. La famille anglaise assiste à la chienlit dénommée course de taureaux. S'en fatigue vite. S'en va avant la fin. Prend la route qui va à la Grande-Terre. De tout ce temps, l'autre famille étrange, mais sans histoire jusque-là, cultive ses champs, chasse, pêche, braconne. Nuit d'août. Les deux familles se rencontrent. L'une disparaît. L'autre vole en éclats. Et les colonnes du temple sont ébranlées. Que la vie sera belle.
Le 1er mai, le camp retranché n'est plus qu'un carré d'un kilomètre de côté. Dans la nuit du 6 au 7, c'est l'Alali.
Ici Genève, la séance finale de la conférence sur l'Indochine s'est terminée cet après-midi. Monsieur Pierre Mendès-France vous parle.
La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas, dans des situations souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient.
C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Did I wing that fucker? Did he drop or what?
No, he's got the best killer. Fucker. He made it before you got it.
Son of a bitch, I don't want to hear that. Yeah.
'54, oui. Ça fait drôle, hein. Ça va vite. Et pourtant, rien ne change, quoi. Parce qu'après 54, il y a eu l'Algérie, quoi. Hein? Et Dominici, il a une drôle de gueule, ce type, hein. Mais c'est sûrement pas lui qui a assassiné, à mon avis. Hein. C'est un pays où les gens sont rentrés au fond d'eux-mêmes, et quand ils ne disent rien, ils ne disent rien. C'est fantastique, ça. Moi, je pense à ça avec stupeur, parce que je suis vraiment pas comme ça, moi. Je parlerais même trop, s'il fallait, quoi. Et alors là, c'est extraordinaire, je comprends pas bien, quoi. Et alors, du côté Mendès-France, aller sur l'Indochine, vous vous rendez compte? Après, c'est les Ricains qui ont été là-bas, quoi. Ah, mais ça, c'était un type bien, je crois, Mendès-France. Il a dit, nous continuerons à être là-bas, comme ça. Que ça veut dire, ça? Il faut mettre les choses au clair et net, parce que il y en a assez. Un jour ou l'autre, les hommes politiques tombent dans ce farniente de la parole qui ne veut plus rien dire, quoi, c'est ça.
Le 29 avril 54,
oui.
À Monaco, tu diriges, je crois, ton premier orchestre.
Ah oui.
Avec la symphonie interrompue.
Oui, mais ça, je n'en parle pas, mais c'est le mal-aimé, quoi. Le mal-aimé qui était. J'avais écrit ça pour. Comme ça pour moi. Hein. Avec beaucoup de difficultés, parce que c'est pas un texte à moi, c'est un texte difficile. Et j'ai mis un an, 52-53, à écrire le mal-aimé. À le composer, puis à orchestrer. Ça m'était jamais arrivé. Moi, j'avais jamais orchestré une chose pareille. J'avais appris l'orchestration, c'est les grands orchestrateurs, qu'en lisant les musiciens. Quoi. Et je suis parti là-bas, et, sans savoir si j'allais y arriver, parce que j'avais jamais dirigé un orchestre comme ça. Je savais pas si je pouvais le faire. Hein, c'est et c'est une œuvre quand même difficile. Et j'ai fait tellement que ça a marché, quoi. Et quand j'avais écrit cette chanson en 52-53, il s'agit de radio, alors je peux le raconter ici. J'avais connu à Monte-Carlo un type qui s'appelait Gilson, qui était directeur de RMC. Quoi. Je l'ai connu de loin, moi. Un speaker ou un régisseur ne connaissent pas le directeur. On ne connaît jamais les directeurs, quoi. Eh oui. Et alors, il était directeur des programmes à la radio française. Alors, j'étais le voir. Et je lui dis, je suis arrivé avec ma partition. Je lui ai dit, bonjour monsieur, je viens vous expliquer. Je lui ai dit que je voulais, s'il pouvait, me donner l'occasion de jouer ça ou de faire jouer ça. Je ne m'imposais pas comme chef d'orchestre, je ne savais pas si je l'étais, à la radio française avec l'orchestre national de la radio française, qui est un très bon orchestre. Et il me dit, la musique. Il faut voir le comité. Alors il téléphone à un mec qui descend, qui était un vieillard. J'ai rien contre les vieillards, mais les vieillards cons, ça me fait chier alors. Hein, celui-là était particulièrement agressif dans sa stature d'imbécile, quoi. D'imbécile grisonnant, tout. Les imbéciles grisonnants, c'est plus dur que tout le reste, parce qu'on se dit, celui-là il est imbécile, il est grisonnant, il n'en a pas fini, pourquoi il s'en va pas, quoi, de l'autre côté de la baraque, quoi. Alors ce type me dit la musique, alors Gilson dit, voilà, monsieur Ferré, la musique, il faudrait le comité. Alors le type dit, oui, le comité. Et le comité, c'était les musiciens de l'époque qui étaient très connus et tout ça, les gens qui vivaient de ça, de leur musique, quoi. Et qui faisaient partie d'un comité pour juger les autres. Ça, c'est, je trouve ça dégueulasse, quoi. Hein? Si on me demandait de faire partie d'un comité, moi, pour juger d'autres chanteurs, je dirais, moi, j'ai pas à juger, moi, c'est chanteur moi-même. Alors, hein? Alors là, il y a tous les grands musiciens. Et il me dit, le vieillard, il me regarde comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est le comité, monsieur? Alors il se penche vers moi, il me dit, mais c'est la musique. Ah, j'ai dit, alors, ah, vous m'en direz tant. Je me suis levé, j'ai pris ma partition, je suis parti, et j'ai dit, non, je crois que j'ai laissé la partition en définitive. Ils l'ont gardé 6 mois. J'avais mis des petits collants un peu dedans. Et quand ils me l'ont rendu au mois d'octobre, voilà, ils avaient refusé la partition, quoi. Hein? Alors je suis allé voir Gilson, je lui ai dit, bonjour monsieur. Je suis venu vous dire bonjour. Au revoir, puisque bon, je vais permettez que je m'en vais parce que il y a Apollinaire m'attend dans la rue, il a pas voulu monter. Pof! Et ce type qui faisait partie lui prit Apollinaire. C'est extraordinaire. Dehors, il poétait, dedans, il est fonctionnalisé, vous comprenez. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire.
C'est vrai. Cette chanson du mal-aimé, tu l'as enregistrée.
Je l'ai enregistrée en 57 et je me suis vengé parce que j'étais chez Odéon comme chanteur de babiole, quoi. Et j'ai dit au type qui aimait bien la musique, qui était un type très bien, qui est mort depuis, qui s'appelait Dory, et qui m'aimait bien, puis qui aimait la musique. Il m'avait dit, oh, c'est bien, Léo, c'est pas vrai. Il voulait me donner un peu d'argent, quoi, pour re-signer le contrat. Un peu d'argent, c'était 2 millions anciens. C'était pas mal pour moi à cette époque-là, quoi. J'ai dit, je veux pas d'argent. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux que tu m'enregistres Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui parut en 57, et la chanson du Mal-aimé, mais à une condition, je veux l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française.
Et ben voilà.
Il m'a dit, il y a une possibilité parce que nous avons des contrats avec Pathé Marconi à Londres, on peut avoir l'orchestre. On a eu l'orchestre, et voilà. Et je me suis vengé comme ça, voilà. Et bon orchestre.
Avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne, et que je ne reverrai plus. Thank you.
Léo, un mot sur cet enregistrement. Tu l'as réécouté récemment. Tu l'as réécouté, ce disque, ou cet enregistrement?
Oui, je l'ai réécouté, oui.
Avec quelle oreille?
Mais moi, j'ai été étonné que techniquement, ce soit aussi supportable, quoi. Même j'exagère en disant supportable. Aussi bon, hein. C'est de mon avis, hein. C'était l'orchestre de la radiodiffusion française, de la RDF. Voilà.
Tout de suite, c'est peut-être une petite surprise qu'on t'a préparée.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni des amours.
Tu connais cette voix?
Ah oui, c'est Guillaume. Au
fond, Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure.
Tu l'avais entendu avant de faire ta musique?
Non. Guillaume Apollinaire, oui. Je dis que c'est la musique qui est le véhicule qui apporte la poésie dans l'oreille des gens, parce que les poésies dites surtout par l'auteur sont avec « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure ». Et ça, c'est terrible, ça. Voilà.
Et autrement, ça donne quelque chose comme ça?
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Mais le disque a vieilli, c'est terrible ça.
Mais Ferré faisant sa propre voix, en se doublant, c'est pas mal.
Un disque, Léo, reflète toujours une époque, un air du temps.
Moi, je suis pas, je suis un peu contre ça, moi. Enfin. Moi, ce qui s'est passé, ça m'intrigue pas, ça me plaît pas. Parce que je trouve. C'est comme quand je me vois dans les trucs de télévision que. Je regarde jamais, quoi. On a enregistré à la maison quand je suis passé au télé machin, tonne là. Et je suis rentré à la maison, j'ai pas regardé. Parce que j'aime pas me voir, quoi.
Mais là, on te voit pas, on t'écoute.
Mais d'accord.
Quand même, entre 54 et 55, pour toi, c'est une période extraordinaire,
oui.
Non ?
Oui, d'accord. C'est bien, c'est une période où. Mais je crois qu'il y a des marques de disques, des gens qui faisaient déjà des choses mieux que ça, quand même, du point de vue de l'enregistrement. Je pense. La voix est un peu déformée.
Ouais, de prise de son, tu veux dire ?
De prise de son, oui. Je demeure.
On a rencontré récemment une dame qui t'embrasse très très fort.
Et elle va te le dire, je pense.
À ses débuts, on voyait beaucoup moins sa silhouette, étant donné qu'il était au piano. Donc ce qu'on voyait, c'était ses lunettes cerclées de fer et ses petits yeux comme ça, hein, et puis son sourire sardonique. Et puis c'était surtout ça, parce qu'on le voyait derrière son piano au début. On voyait que sa tête, on écoutait sa voix et on voyait sa tête, c'est tout. Je devais avoir 20 ans. Et dans un cabaret de la rue du Pré-au-Clair qui s'appelait le Quadlibet et que tenait Francis Claude, je suis passé dans le même programme que Léo. C'était la première fois que je voyais Léo. Pour moi, Léo, ça a tout de suite représenté. Bon, moi, je suis typiquement une interprète, j'ai jamais rien écrit et j'ai toujours été attirée par les beaux textes. Et tout ce qu'écrivait Léo, ça me semblait être du sur-mesure pour moi au début. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, ça me semblait l'idéal. Alors, j'ai tout de suite demandé à Léo si je pouvais chanter quelques chansons. J'ai commencé par Monsieur William, qui était la première que j'ai chantée de lui. Et puis après, j'en ai chanté de plus en plus, si bien là, c'était en 49. Alors après, on a fait des tas de cabarets où on était dans le même programme. On a fait un truc, je crois que c'était le caveau de la Huchette ou quelque chose comme ça. Après, on est resté très longtemps ensemble au Trois Maillets. Et là, au Trois Maillets, alors on a commencé à beaucoup mieux se connaître et j'ai commencé à chanter beaucoup plus de chansons de lui. Puis on est resté aussi à l'Arlequin très longtemps ensemble. Alors à l'Arlequin, là, ça devenait compliqué parce que là, j'avais déjà un gros succès. Des Paris Canailles. Alors on se mettait d'accord, on disait bon, alors tu me donnes celle-là, je te reprends celle-là. Enfin, on se faisait comme ça des tas de micmacs. Mais alors, Paris Canailles, on voulait pas céder ni l'un ni l'autre parce qu'évidemment c'était celle qui marchait le mieux. Et alors, lui débutait son tour avec Paris Canailles et moi je finissais le mien avec Paris Canailles. Les clients avaient deux versions de Paris Canailles dans la même soirée, mais ça, on n'a pas cédé pour celle-là, on n'a pas cédé.
Lorsque vous avez vu Léo Ferré la première fois en train de chanter, qu'est-ce qui vous a le plus peut-être étonné, surprise chez ce type ?
Oh chez Ferré, c'est difficile de dire ce qui est le plus étonnant parce que tout est étonnant. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était l'époque où il s'accompagnait au piano. Maintenant, il a acquis une sorte de sérénité, mais à cette époque-là, il avait un côté diabolique, un peu comme ça. Hein. Puis, il aimait bien un peu les effets diaboliques, c'est vrai. Monsieur William, avec l'éclat de rire de la fin, enfin, tout ça, moi, ça me plaisait beaucoup, d'ailleurs. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était l'écriture. L'écriture, c'était fantastique. Il avait le sens du raccourci. Et en même temps, il y avait ce mélange fascinant d'une écriture relativement difficile pour le grand public, mais qui était véhiculée par une musique extrêmement, non pas facile, une musique très bien écrite, mais une musique qui se retenait, qu'on avait tout de suite dans l'oreille. Si vous demandiez aux gens, Paris Canailles a été un énorme succès, ça a été traduit dans le monde entier, dans toutes les langues. Et Paris Canailles, si vous demandiez à n'importe qui de vous citer, je ne sais pas, 10 phrases de suite de pareilles canailles, personne ne les connaît. C'est impossible, parce que c'est une langue qui n'est pas facile du tout. C'est un argot très littéraire, très écrit, très...